Une image de cette année, la cinquième et la dernière pour moi, avant de vous retrouver lundi en 2018 pour d'autres images qu'il vous reste à imaginer. Cette dernière image, c'est une petite vitrine dans le Louvre à Abu Dhabi, inaugurée cette année, dont on a dit qu'il était d'abord le lieu d'un dialogue entre les cultures, les religions, les civilisations. Dans le vestibule, la toute première salle du musée, dont le sol est comme une grande carte du monde, on trouve des trésors placés côte à côte qui ont la particularité d'avoir été créés à la même époque, aux quatre points de la planète, et de se ressembler. Trois objets ici qui se rencontrent pour la première fois. Trois œuvres conçues en toute autonomie, sans que les artistes aient pu imaginer un instant que leurs semblables inventaient la même chose, à des milliers de lieues et à peu près en même temps. Trois masques sous mes yeux. L'un qui vient de Chine, l'autre de Syrie et le troisième du Pérou sont des masques dont on aurait bien du mal à dire la signification, mais il est évident qu'ils ont quelque chose à voir avec la religion. Pas la même, évidemment, mais à cette même tension entre la crainte, le sublime et l'élévation. Il y a des choses qui ne trompent pas dans l'art de la comparaison.
France Inter. Le best-of. Augustin Trapenard.
Bonjour à tous et bienvenue dans Boomerang. Quel livre ont rendu libre mon invité d'aujourd'hui? Il est écrivain et recevait il y a un peu plus de deux ans le concours du premier roman pour Meursault contre enquête. Son deuxième roman Zabor, où les psaumes viennent paraître, il nous raconte l'histoire d'un jeune Algérien paria, poète et prophète, doté d'un étrange pouvoir. Les histoires qu'il écrit sauvent des vies. Bonjour Kamel Daoud.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être là. Qu'est-ce qu'il représente les livres pour vous, Kamel Daoud? Et j'insiste sur le pluriel, les livres.
Le salut. La possibilité de partager l'intimité du monde, une sorte d'intimité universelle, relativiser mes croyances, prendre de la distance, voyager. Mais la lecture pour moi était salutaire. Et j'insiste sur le mot, mais vraiment sur le sens brut du mot « salut ».
En ceci, est-ce que vous diriez que les livres, quels qu'ils soient, s'opposent à un livre sacré au singulier ?
Éternellement, le livre descend du ciel ou monte du palais d'un dictateur, c'est la même chose. Le livre rouge, le livre sacré, le testament, l'ancien, le nouveau, celui qui est à venir. La littérature, les livres s'opposent toujours à un livre qui veut s'accaparer la parole.
Ça voudrait dire que tous les livres sont sacrés?
C'est ce que dit Zabor à un moment, je me bats pour que tous les livres soient sacrés.
Le Coran, Kamel Daoud, quel livre est-ce que c'est précisément pour vous?
C'est le livre des ambiguïtés humaines. Vous savez, les livres sacrés sont à l'image de l'homme. Ils sont porteurs à la fois de ce qui est sublime, de ce qui est monstrueux, de ce qui est violent, etc. Les dieux sont à notre image. Vous voyez les dieux grecs, vous voyez les dieux du monothéisme, etc. C'est incroyable. C'est-à-dire, les textes sacrés ne sont que des prétextes à la fin. Les dieux, c'est nous qui les faisons parler, c'est nous qui les sculptons, c'est nous qui les portons.
Je vous pose la question, hein, parce que il se trouve que Zabor, qui est le nom de votre héros et qui donne son titre à votre roman, c'est aussi le titre d'un des trois livres qui précède le Coran. C'est donc d'un livre sacré dont vous proposez en creux la réécriture.
Pas uniquement. Il y a un très beau proverbe dans le Maghreb qui dit « À qui tu vas raconter tes psaumes ? Oh David !» David, c'est Daoud, quelque part. Et j'ai joué avec ce petit vertige un petit peu narcissique. Mais en même temps, ce proverbe dit « Qui va vous croire ? Qui va te croire ? Tu presses dans le désert, tu en avances sur ton temps ou peut-être en retard, etc. » Donc il y avait ce jeu-là. Mais en même temps, les psaumes, pour moi, c'était cette possibilité d'exprimer la sacralité de la littérature. C'est surtout ça.
Se peut-il que ce geste littéraire, Kamel Daoud, soit considéré comme un geste blasphématoire ?
Oui. Toute littérature est blasphématoire vis-à-vis de radicalisme, d'utopisme, etc. On l'a vu avec le fascisme du XXe siècle, on le voit avec les nouveaux fascismes théologiques, etc. Donc tout exercice de liberté, d'affirmation est blasphématoire.
C'est ça que ça veut dire blasphémer pour vous, qui est toujours, je le rappelle, sous le joug d'une fatwa en Algérie?
On l'est tous sous le joug d'une fatwa, je veux dire, celui qui s'attable à une terrasse, le petit touriste qui va en Tunisie. Enfin, je ne pense pas que ce soit quelque chose de qui soit propre à l'écrivain. Bien sûr que c'est symbolique quand il s'agit d'un écrivain ou d'un artiste ou d'un politique. Mais en même temps, c'est la moitié du monde qui est sous toi, pas uniquement moi, donc je ne me mets pas en avant.
Si vous n'aviez pas rencontré les livres, Kamel Daoud, qu'est-ce que vous feriez aujourd'hui, à votre avis?
Je n'arrive pas à imaginer ma vie sans les livres. Je pense avoir été une vie, entre guillemets, monocorde, avec un seul son, avec un seul sens, fermée, désastreuse, triste, mais pas riche. Je n'arrive même pas à concevoir cette vie de cadavre.
Il y a quand même cette idée d'une soif d'absolu perpétuelle quand on vous entend, quand on vous lit. En ce sens, la littérature, est-ce que c'est une religion ?
C'est une religion. Parce que, mais c'est une religion quand même généreuse. C'est-à-dire, elle vous demande de laisser de côté votre corps quand vous lisez, mais pas de le rejeter, pas d'en avoir honte. Et puis, c'est une sorte d'exercice à l'au-delà, mais sans la mort. On lit, on est dans l'au-delà, mais après on revient et on ressuscite et on reprend sa vie quotidienne. La littérature, c'est une religion sans l'abandon du corps et sans au-delà.
Et devant laquelle on prie sans baisser les yeux.
Exactement.
J'aimerais lire un passage, si vous le voulez bien, de Zabor, Kamel Daoud, page 316. « J'ai rendu visite à des malades, des agonisants, des candidats au trépas, des enfants en sueur et des femmes déchirées par un accouchement. Ma légende monta et attira l'attention du diable et du vent. Mon père en rigola jaune, ma tante en tira fierté. Mes demi-frères furent jaloux de mon royaume, mais les pauvres villageois revenaient encore et toujours vers moi, en dernier recours. J'en ai sauvé des centaines. J'ai ajouté 1001 jours presque chaque fois, rendu l'île habitable, et Paul devint flamboyant dans la nuit, phosphorescent quand il lisait. La moquerie accompagna mon don, mais je n'en avais cure. Pourquoi j'écris ? Parce que je témoigne, je suis le gardien. Je fais reculer la mort des miens, car ils sont essentiels et dignes d'éternité. Dieu écrit, moi aussi. » On en est là, Kamel Daoud. L'écrivain, c'est Dieu. C'est de la mégalomanie ou c'est autre chose ?
Non, c'est peut-être la mégalomanie, mais en même temps, elle est excusable, elle est louable. Elle est, on peut en faire l'éloge. On écrit tous parce qu'on a envie de reprendre cette parole au ciel.
Cette mission de sauver vos proches d'une mort absolue par l'écriture, cette vocation hein, quasi mystique, quand est-ce qu'elle vous a été révélée ?
À l'enfance, je regardais les miens et je voyais un petit peu des gens autour de moi qui disparaissaient. Et j'étais scandalisé. Ils meurent, mais ils meurent totalement. Ils ne laissent rien. À peine une paire de tombales qui va survivre, peut-être une dessinée ou deux. Je me disais que la littérature, le fait de raconter leur histoire, pouvait les sauver. C'est homérique, c'est ancien, c'est grec, c'est peut-être c'est humain. Mais cela venait de ça. Et en même temps, j'avais cette obsession de perpétuer les choses en les décrivant avec justesse. Personne ne connaît tel endroit s'il n'est pas décrit. Donc, s'il n'est pas décrit. Donc, s'il n'est pas sauvé.
Dans Zabor, c'est son père que le narrateur tente de sauver en écrivant le livre que nous, lecteurs, tenons entre nos mains. Histoire qui se raconte en fait au nom du père. Qu'est-ce qu'elle vous inspire cette figure du père, Kamel Daoud, figure du patriarche, que vous n'épargnez pas dans le livre et qui est centrale dans tout ce que vous écrivez ?
Pour moi, un des mythes profond et inquiétant du monothéisme, c'est le mythe d'Abraham qui égorge son fils. Je veux imaginer tous mes livres comme étant la révolte de ce fils qui ne veut pas être égorgé. Je veux faire le procès de ce père qui est capable, sur un rêve, d'égorger son fils. Je veux rééquilibrer. Je veux donner le droit de parole au fils. Je veux qu'il y ait un rapport guéri entre les deux. Un père qui veut égorger son fils, c'est un père à qui il faut tenir tête. Vous savez, au fond, l'enjeu, c'est nous. C'est nous. Ce ne sont ni les dieux, ni les demi-dieux, ni les anges, ni les démons. Eux, ils ne travaillent pas. Ils n'ont pas de corps. Ils ne meurent pas. Ils ne naissent pas. Donc l'enjeu, c'est nous. Le droit à la parole, c'est le nôtre.
Boomerang, le best-of, Augustin Trapenard.
Nul n'osera contester à mon invité d'aujourd'hui le titre de papesse du roman historique. De l'Allée du Roi, il y a 34 ans, jusqu'à sa trilogie intitulée La Reine oubliée qu'elle n'a pas encore terminée, elle fait escale aujourd'hui dans la Judée du 1er siècle avec Vie de Jude, frère de Jésus, qui explore les mystères de la naissance du christianisme en compagnie des frères méconnus du Christ. Bonjour Françoise Chandernagor.
Bonjour.
Vous savez, ce qui est intéressant, et je me le disais en vous lisant d'un point de vue littéraire, c'est que la religion suppose une croyance, de la même façon que le roman suppose une croyance de la part de ses lecteurs, une sorte de pacte en fait, une suspension consentie de l'incrédulité, comme disaient les romantiques anglais. Alors avec ce livre, Vie de Jude, frère de Jésus, quelle croyance est-ce que vous remettez en question, précisément ?
Écoutez, pas énormément de croyances. J'ai suivi à peu près ce qui est indiqué dans les évangiles, les actes des apôtres, les lettres de Paul et la lettre de Jacques. Ce sont mes documents premiers. Alors, ils n'ont pas totalement le caractère de documents historiques, mais enfin, on s'accorde pour dire que certains d'entre eux sont effectivement authentiques, d'autres moins, mais...
Surtout qu'ils concordent, plus ou moins.
Oui. Bon. Et donc, j'ai suivi ça. Alors, évidemment, je m'écarte de la doxa, avec les frères de Jésus. C'est-à-dire que moi, je considère qu'il y a des frères de Jésus parce que tous les textes supposés authentiques ou sérieux, c'est-à-dire les textes canoniques que l'Église a choisi elle-même, parlent des frères de Jésus. Ça veut bien dire frère, ça veut pas dire cousin, c'est écrit en grec, il n'y a pas de confusion possible.
Ce qui remet en question le dogme de la virginité perpétuelle de
voilà,
la, de
alors
la Marie.
Voilà, ça ne me remet pas du tout en question le dogme de la conception virginale. Bon, que Jésus soit le fils de Dieu, bon, ça remet, oui, en question simplement la virginité perpétuelle qui n'a été déclarée, il faut bien le savoir, que au 7e siècle après Jésus-Christ. On a mis 700 ans pour penser que Marie était restée toujours vierge, même dans la mort, enfin, et que alors que vraiment pendant des siècles et des siècles, le fait que les textes parlaient des frères, donnaient leur prénom, ça ne troublait personne.
Vous avez eu des réactions officielles de l'Église catholique, votre texte
non,
est sorti.
Officielles, non, et je ne m'attends pas à des réactions officielles parce que je suis quand même pas la première catholique. Il y a des catholiques plus catholiques que moi, il y a des prêtres, il y a des moines, etc., qui ont écrit là-dessus, des spécialistes, des exégètes, et qui ont dit que ben il y avait des frères.
Et puis vous vous protégez quand même par le statut du texte. Il est écrit roman
bien
sur
sûr,
la couverture.
C'est un roman, bien sûr.
De Vie de Jude, frère de Jésus.
C'est un roman. Bien
et en
sûr.
Même temps, François Sondernagor, dans la longue postface qui suit ce roman, vous dites, en citant la parole de Jésus, que vous avez écrit ce texte pour dévoiler ce qui a été caché. Le but, c'est quand même de rétablir une vérité historique.
Oui, enfin, ce que je crois, en tout cas, moi, être une vérité historique, d'autant que le souci de le rétablir, c'est aussi rétablir vraiment les premiers temps de l'Église, parce que les frères ont eu un rôle très important dans le début de l'Église. Ils vont manifestement prêcher dans la diaspora comme l'apôtre Paul, qui les rencontre et qui dit « Oh là là, on n'est pas traités de la même façon, parce que les frères du Seigneur, eux, ils viennent avec leurs femmes, et puis ils se font entretenir aux frais des communautés, et moi, je suis obligé de trimer pendant ce temps-là pour gagner mon pain. » Et donc on les voit, certains ont eu un rôle déterminant, comme Jacques, qui a été le premier évêque, entre guillemets, de Jérusalem, donc le premier pape, parce qu'il n'y a pas d'autre église au départ que celle de Jérusalem, et qui gouverne les églises d'Antioche, etc. Rome, ça viendra plus tard. Donc, Jacques, le frère aîné, en étant le chef de cette église, a un rôle essentiel, même sur la philosophie de l'Église. Et Jude fera aussi, enfin le petit frère que je prends comme héros, le Benjamin de la fratrie, aura aussi un rôle, puisqu'on a dans le Nouveau Testament une épître de Jude.
En vous écoutant, je me pose la question du statut de votre parole. D'où vous parlez, en fait, Françoise Sondernagor, en chercheuse, en romancière, en croyante, en athée? Parce que c'est vrai que vous faites valser, par exemple, le dogme de la Sainte Vierge, mais en même temps, vous ne revenez pas...
Non, la Sainte Vierge, ça ne me gêne pas, vous pouvez l'appeler comme ça.
De la Vierge perpétuelle,
Vierge perpétuelle.
Et en même temps, vous ne revenez pas sur la résurrection, par exemple. Pourquoi ne pas essayer de tout rationaliser?
Je ne reviens pas sur la résurrection parce que si vous voyez comment je l'ai raconté, j'ai choisi les passages qui, dans les évangiles, montrent que Jésus n'est pas reconnu tout de suite. C'est-à-dire, à chaque fois, des gens, après coup, disent, rencontrent quelqu'un qu'ils ne connaissent pas, mais qui leur parle formidablement, ou qui rompt le pain comme lui, ou je sais pas quoi. Et tout d'un coup, alors qu'il est parti, ils disent, mais c'était Jésus, bon sang. Et donc, ça, je trouve que ces épisodes-là sont très forts, parce que celui qui ne croit pas peut se dire, bah, c'est psychologique, hein, c'était pas Jésus, et ils ont cru le reconnaître, parce qu'ils veulent tellement le revoir. Et donc la résurrection, je la traite comme ça, voyez. Et vous pouvez dire, ils n'ont pas vraiment vu Jésus, ou vous pouvez dire, c'était bien Jésus.
Cette histoire, comment on en vient à croire une chose aussi? Parce qu'en plus, le christianisme, et tout de même, on y est habitué par familiarité culturelle, ce qui fait que ça nous paraît plus si bizarre, mais c'est tout de même une histoire d'une rare extravagance. C'est une histoire totalement cinglée. Magnifique, mais cinglée. C'est un roman dont on se demande comment ça a pu s'inventer, se mettre en place, tout ça. Et donc, une des choses que j'ai essayé de faire dans ce livre, c'est de revenir aux origines de cette espèce de grand roman qui a été si formateur et si essentiel pour nous. Et malgré tout, si je continue à le penser, si profondément nourrissant.
Emmanuel Carrère, qui a écrit, on s'en souvient, à la rentrée dernière, ce livre « Le Royaume » dans lequel il remontait aux origines du christianisme, pour éclairer, on l'entend, notre culture collective. Vous l'avez lu, ce livre?
Ah oui, bien sûr, oui, bien sûr.
Il dit quelque chose d'intéressant quand même, Emmanuel Carrère, c'est cette nature essentiellement littéraire du texte biblique. Vous partagez ce point de vue?
Oui, alors il a par exemple remarqué dans son livre que Luc est un romancier né. J'avais déjà fait la même remarque, c'est incroyable. Quand on sait comment on écrit, on voit comment c'est fait, et on voit bien que Luc, je prendrai pas tout Luc pour parole d'évangile, parce qu'il se laisse entraîner et il vous fait une scène magnifiquement construite, vraiment la scène d'un grand romancier. Maintenant, qu'est-ce qu'il y avait au départ, je ne sais pas parfois, mais c'est superbe.
Comment vous expliquez, François Sondernagor, cette passion qu'ont les lecteurs aujourd'hui pour les romans historiques liés à la religion, et en particulier la Bible, hein, depuis les best-sellers de Dan Brown jusqu'au Royaume d'Emmanuel Carrère précisément? Il y a plus qu'un intérêt, il y a une passion, vraiment.
Il y a une passion qui correspond peut-être à une recherche plus profonde, hein, mais bon, on n'en est pas là. Effectivement, nous vivons dans des pays très déchristianisés, mais l'intérêt purement religieux est peut-être devenu un intérêt intellectuel et qui peut-être annonce un certain retour vers le religieux, je ne sais pas.
Alors on va revenir sur le récit biblique, l'épopée romanesque, le document historique aussi, juste après un peu de Dépêche Mode, moi je trouve que ça vous va pas mal. Personal Jesus
beaucoup.
Dans Boomerang. Reach out, touch faith. Physiquement, on est entre la star de Hollywood et Merlin l'Enchanteur, avec ses cheveux, vous savez, sa barbe d'un blanc éclatant, avec son profil impérial, son nez de caractère, ses yeux de magicien qui vous médusent autant qu'ils vous séduisent. Il a l'air princier quand même dans ses slippers en velours bleu marine, main posée sur ses genoux, visage tendu vers moi avec l'attention, avec l'empathie d'un vieux sage. Il est là et pourtant, c'est comme s'il était ailleurs. Jodorowsky, mon invité dans Boomerang, à l'occasion de la sortie de ce documentaire qui lui est consacré, Jodorowsky's Dune, on y découvre les coulisses de ce projet pharaonique qui rassemble les plus grands artistes des années 70, des Pink Floyd pour la musique, Möbius pour l'univers visuel, Dali, Mick Jagger, Orson Welles. Le travail avec tous ces artistes, ça dit aussi quelque chose de votre conception du cinéma, quelque chose de total en fait, quelque chose d'un peu mégalo. À un moment donné, vous êtes devenu presque un prophète en fait.
Un prophète, c'est trop dire, mais il y a des légendes.
Mais c'est ce que vous vouliez en même temps, non?
Je voulais que le film soit un prophète, pas
avec
moi.
Avec ce film que vous avez pensé comme un évangile.
Si. Pourquoi le cinéma ne serait pas sacré? Si Christ venait sur Terre, il faisait du cinéma ou de la télévision.
Quel genre de cinéaste est-ce que ce serait le Christ, à votre avis?
Un cinéaste comme moi, simplement.
Comment vous expliquez qu'un film qui n'ait jamais été réalisé, comme Dune, jamais été vu, soit devenu une source d'inspiration pour tant de cinéastes?
Mais parce qu'il y avait une vérité. La vérité, on peut la cacher, mais on ne peut pas la tuer. Il y avait une vérité dans Dune et on n'a pu pas la tuer. Ça, c'est la vérité.
Mais cette vérité qui s'est disséminée dans d'autres films, Alejandro Jodorowsky, à aucun moment vous vous êtes senti un peu dépouillé de votre œuvre?
Non, parce que je sens que j'ai été des graines, elles sont poussées, je suis ravi. Moi, ma créativité est là. Au contraire, je dois être content d'avoir apporté quelque chose.
Alors, elle existe, hein, matériellement, cette créativité. Ce qui est fascinant, c'est que tout votre projet Dune, il est consigné dans un livre qui n'existe qu'en 3 exemplaires. Ce livre qui est une sorte de manuel de réalisation du film, mis en dessin par Moebius notamment. Il n'a jamais été publié. Pourquoi?
Parce que ce n'était pas pour être publié, c'était le guide pour faire le film. Ça a été dessiné parce qu'avec ce dessin, j'allais réaliser le film.
Mais aujourd'hui, que le film est si culte, vous pourriez le publier?
Je ne veux pas, parce qu'il vaut mieux garder un certain mystère, parce que comme ça on fait une légende, et peut-être le rêve est plus beau que la réalité.
Il n'y a rien de plus fort, il n'y a rien de plus grand que le cinéma pour vous?
Pour moi, oui, je pense que c'est l'art complet, parce que c'est la poésie, l'histoire, la littérature, la peinture, l'architecture, les objets, la musique, il y a tout dans le cinéma, tout.
Le choix de vos collaborateurs pour Dune, il ne s'est pas fait simplement sur la base de leur talent ou de leurs compétences. Il fallait quelque chose en plus, non?
Oui, parce que j'ai cherché une chose morale. Je voulais des guerriers spirituels.
Des guerriers spirituels?
Oui, c'est ça que je voulais.
Ça veut dire quoi?
Des personnes qui croient vraiment dans l'œuvre et qui sont prêtes à donner sa vie, un bras, pour faire son œuvre. Au moins, c'est ça que je conçois. Je conçois qu'un artiste n'est pas un individu. C'est la voix de l'humanité.
Quelle était cette humanité sublime que vous vouliez montrer à travers Dune?
Vous, moi, ce qui écoute, c'est ça l'humanité. Moi, je te parle comme une personne qui peut mourir demain. J'ai 87 années. Alors, je sais ce que c'est aimer la vie. Je sais que l'humanité est immortelle. On va mourir quand est la personne qui m'écoute? À quel âge tu vas mourir, toi que tu m'écoutes? Mais l'humanité peut arriver jusqu'à la fin de l'univers. On va dévorer cette planète et on va aller à notre planète le dévorer. Jusqu'on va apprendre à créer des planètes.
Vous diriez que vous êtes guidé par une force qui vous dépasse en tant qu'artiste?
En tant qu'être humain, tout être humain est guidé par des forces qui le dépassent. Et il est guidé par son inconscient. Et moi, je pense que l'inconscient a à voir avec le passé, mais qu'on a un supraconscient, supraconscient, qui a à voir avec le futur. Parce que moi, je ne crois pas que cet univers soit fait par hasard. Je crois qu'il y a un esprit dans l'univers qui a ses plans pour nous.
Alors, en tant qu'artiste, on est au service de cet univers, justement?
Oui, on est des créateurs de conscience. On est des animaux conscients. Et la conscience, c'est la force qui soutient en vie le cosmos entier. Tu peux l'appeler la conscience divine, si tu veux. Mais je ne sais pas pour moi qu'est-ce que c'est Dieu. Mais il y a une énergie dans laquelle je crois. Et cette énergie, il y a une finalité future. On va à quelque chose. Et on va devenir la conscience de l'univers. C'est ça que je pense, moi.
Ce qui est intéressant quand même quand on est à côté de vous, Alejandro Jodorowsky, dans la façon que vous avez de regarder un peu celui qui vous parle, il y a quelque chose d'assez étrange qui se produit. Comme si vous étiez capable de lire dans mes pensées, de lire...
Écoute, moi, je ne peux pas te dire que je suis un être humain, ça me fait rire, mais quand j'ai choisi les acteurs, ils arrivent les acteurs, les castings, non? Et je dis, celui-là. Je ne fais même pas me dire un texte, je sais tout de suite que c'est le caractère parfait pour le rôle.
Vous saviez tirer les cartes à l'époque de Dune?
Si, il y a des années, au moins plus d'un demi-siècle, 60 ans que j'ai lu les tarots, non?
Vous ne quittez jamais votre jeu de tarot, Alejandro Jodorowsky?
Quand je sors, il est dans ma poche.
J'ai envie de le faire, moi, là. On peut, pour une question?
Si, tu peux.
Ok, super. J'ai un peu peur. Hein. Alors, je fais un petit mélange.
Oui.
Je bats les cartes.
Oui.
Et je tire 3 cartes. Je les retourne, Alejandro.
Je ne sais pas que tu tires. Tu prends les tarots, tu me passes les tarots. Quelle question tu fais?
Quel est le rôle,
oui,
de la culture?
Quel
aujourd'hui
est le rôle de la culture? Ah là là. L'empereur, l'arc en 13, n'a pas de nom, on l'appelle la mort, mais c'est l'arcane 13.
Ça fait très très peur, Alejandro, cette carte. C'est les changements
et le monde. Voilà que c'est le but de la culture. Ouvrir l'être humain pour que l'intellect arrive au silence, à cette langage qu'il y a en dessous des mots, pas, arrive à ouvrir le cœur pour que l'ange qui est dedans nous puisse voler sans problème.
Merci, Alejandro Jodorowsky. Merci beaucoup pour cette prophétie.
Boomerang, le best-of.
Bonjour Johann Sfar.
Bonjour.
Pour vous, quel lien est-ce qu'il y a entre ces principes, hein, de laïcité et de liberté d'expression ?
Un espace vide et apaisé où chacun peut être ce qu'il est. Ça me paraît très important. De ne pas mettre une pression sur les choix religieux de chacun, sur les choix intimes. C'est ça la laïcité, c'est pas une manière de tuer la religion.
Si Dieu existe, ce nouveau carnet qui nous plonge au cœur de vos réflexions intimes, Johann, sur la religion, la société, le monde, mais aussi sur l'amour et les femmes, dans ce livre, il y a une tension en fait qui me semble assez intéressante entre la passion, mais aussi la colère et le découragement. C'est ça qui est intéressant. Dans quel état est-ce que vous êtes, vous, aujourd'hui ?
J'ai fait 3 carnets, un depuis celui-là. Là, c'est celui du début, je suis en train de me reconstruire, je suis en pleine latence amoureuse et mystique, donc il me manque tout.
Ce qui est impressionnant dans ce livre, ce qui est aussi, à mon avis, un témoignage, hein, c'est la façon dont vous êtes rattrapé sans cesse par le fait religieux, comme si on pouvait plus y échapper aujourd'hui, comme si on était obligé d'avoir une lecture religieuse du monde, ce sont les mots que vous employez.
Oui, ça c'est le problème qui touche principalement les musulmans et les juifs en France, c'est qu'on leur parle de leur religion tout le temps. Moi, je suis là-dedans nuit et jour, mais j'ai l'impression que tout le pays est rattrapé par cette réalité-là. Et ce serait important qu'on réussisse à créer une autre lecture de notre quotidien. Malheureusement, je ne crois pas qu'on y arrive.
Le titre de votre livre, Si Dieu existe, c'est une crise de la foi, pourtant.
Non, au sens beaucoup plus large, c'est qu'est-ce qui va faire qu'on va se lever le matin ? Qu'est-ce qui va faire qu'on va croire à la journée qui arrive ?
Croire en quoi que ce soit, en fait.
Oui, c'est ça, qu'on se dit que ça sert peut-être à quelque chose, ce qu'on fait.
En quoi vous croyez, Johann Sfar, aujourd'hui ?
Beaucoup dans la joie, beaucoup dans des choses amoureuses que j'espère, et beaucoup dans l'idée qu'à cette vague un peu terrible, il y a une vague chouette qui va suivre, c'est pas possible autrement. On ne va pas avoir que des saloperies tout le temps.
Au dessin aussi, à l'art ?
Ça m'aide beaucoup. J'ai un cousin qui me dit « mais tu devrais prier ». Je dis « mais enfin, le dessin, c'est pareil. Le dessin, c'est une prière. »
À la beauté ?
Oui, ça me rend fou.
Je me suis intéressé à vos muses, quand même, dans ce nouveau livre, Johann Sfar. Il y a la femme rabbin qui vous hante la nuit. C'est qui, cette femme rabbin ?
Je m'endors en écoutant du Barbara Streisand et je me réveille avec des érections dont je ne sais pas quoi faire. Et je me suis dit que c'était mystique pour trouver une justification. Et elle me dit, il faut que tu découvres ton... Je sais pas. Parce que les rabbins sont toujours des mecs. Et alors moi, par rapport au rabbin, j'ai envie...
Ça, pour vous, c'est un scandale.
Hein. J'ai envie de devenir hétéro par rapport au rabbin. Voilà, dans le domaine. Et alors, en plus, elle me suce dans la BD, si je me souviens bien. Je le dis comme ça, qu'on ne croit pas qu'il faut mettre ça dans l'éducation religieuse. Mais ça me fascine. L'idée que Dieu puisse être une déesse, ça me plaît beaucoup.
Ben oui, parce qu'il y a cette déesse-femme, effectivement, que vous invoquez, hein, comme alternative aussi, j'ai l'impression, au dieu barbu des religions actuelles.
Ça, on a quand même beaucoup de chance. La fondatrice de la nation berbère, Kaena, on ne sait même pas si elle était juive ou pas. On se demande quelle était sa religion. Donc, le Maghreb s'est fondé sur une reine guerrière dont on ne sait pas la religion et qui, à mon avis, Moi, j'ai jamais fait la différence entre un juif et un arabe. Je dois manquer de lunettes. En revanche, la religion me pose parfois problème. Donc, je nous rêve une déesse guerrière qui mette tout le monde d'accord, oui.
Si Dieu existe, Johann Sfar, pour reprendre le titre de votre livre, c'est une femme.
Ça se termine quand même par si Dieu existe, je m'en fous. Parce que qu'il existe ou pas, c'est pas lui qui va nous aider à nous en sortir. Donc, comme on dit dans la Bible, il va falloir se les retirer à un moment et se mettre à discuter ensemble.
Je sens tes poumes et tes bangs agiter mon cœur blessé. L'amour comme un boomerang me revient des jours passés à pleurer les larmes dingues d'un corps que je t'avais donné. Sur le bout de la langue, ton prénom presque effacé, tordu comme un boomerang, mon esprit l'a rejeté de ma mémoire, car la bangue et ton amour m'ont épuisé. Des poumes et des bangs agiter mon cœur blessé, l'amour comme un poumon. me rend me revient des jours passés à pleurer les larmes dingues d'un corps que je t'avais donné.
On s'applaudit quand même tous. On applaudit les auditeurs de France Inter aussi qui étaient avec nous. Camille, ses choristes, toute l'équipe de Boomerang et vous pour reprendre comme un boomerang de Gainsbourg. Je suis ému quand même, hein, parce que le vendredi nous appartient.